Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix jusqu'à 19h10-12 sur Sud Radio aujourd'hui, puisqu'après vous aurez les vraies voix qui font rouler la France. Avec aujourd'hui Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole, voilà. Auteur du livre « Libre propos d'un inclassable » publié à la Nouvelle Librairie. Bonsoir mon cher Philippe.
Bonsoir mon cher Philippe David.
Lydia...
Oui. Voilà, pardon. Non, j'attends vos présentations suivantes. Je n'osais espérer que nous avions... Je vois un homme que je crois identifié.
Oui, et surtout c'est un homme chauve, ce qui prouve qu'il a une grande intelligence, un grand sens de la propos. On va le présenter dans quelques instants. Je vois Lydia Guirous, essayiste, auteur du livre « Assimilation, en finir avec ce tabou français » publié à l'Observatoire, qui tique sur l'intelligence des hommes chauves.
Non,
qu'est-ce que cette calvophobie ?
Pas du tout, je tique surtout sur la présentation et votre insistance sur un trait... minime du physique de l'un des invités que vous avez en commun. Mais je me suis dit, quelle présentation ! Il n'y a que chez Philippe David qu'on peut avoir une telle présentation à des invités éditorialistes.
Je trouve que vous coupez les cheveux en quatre.
Très bien. Et enfin, ce n'est que le début, cher auditeur.
Vous connaissez une de ses qualités, on va dire, physique. C'est un plaisir de le revoir. Didier Lebray, ancien ambassadeur et consultant. Bonsoir Didier Lebray.
Bonsoir Philippe.
Le menu des vraies voix. 17h30, notre premier débat. Faut-il rendre les squatteurs expulsables immédiatement ? On voit le drame que vit un jeune couple qui achète une maison dans l'Essonne et qui va se retrouver à la rue à la fin de l'été, si jamais on n'arrive pas à faire expulser la famille de squatteurs qui a pris possession de leur maison parce que malheureusement ils se sont saignés et que d'ici quelques semaines ils n'auront plus de quoi payer leur logement et leur logement qu'ils n'occupent pas. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux à 18h30. The Lancet en parle. Et hier, c'est même Patrick Cohen qui en a parlé, qui n'est pas franchement un journaliste complotiste. Origine du coronavirus, doutez-vous de la thèse officielle, puisque maintenant, on parle pas seulement du laboratoire chinois de Wuhan, mais d'un laboratoire américain qui serait peut-être mouillé dans cette affaire. Même chose, vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Vous avez l'air en pleine forme, les vraies voix.
Ah bah avec un animateur comme vous.
Après de telles présentations, franchement...
Alors écoutez, vous avez dit, ma chère Lydia, vous êtes réveillée, on est réveillée après cette intro. Eh bien écoutez, vu le coup de gueule que je vais pousser, vous allez être encore plus réveillée. Double coup de gueule, oui, parce que là il y en a deux d'un coup, deux pour le prix d'un, voilà. Mais deux parce que c'est à deux bouts de la France. On commence Toulouse, une ville qui m'est chère. Mardi soir vers 19h40, refus d'obtempérer d'un voyou qui roule à 100 à l'heure dans les rues de la ville. Il arrive avenue de Camille Pujol, une avenue très fréquentée que les Toulousains connaissent bien, en BMW. Il a voulu doubler pour fuir la police, mais des voitures arrivaient en face. Il part en tête à queue, percute deux voitures avant de s'encastrer dans les barrières qui protègent l'école Jean Chaubet, qui heureusement à cette heure-là n'avait pas de parents d'élèves ni d'élèves qui étaient devant l'école. Dans une des deux voitures percutées, une 3008, une femme et sa fille ont été blessées. On imagine si elles avaient été dans une Twingo ou en deux roues motorisées ou non, avec une voiture roulant à cette vitesse, elles ne seraient malheureusement plus de ce monde. Conducteur 23 ans et la passagère de 26 ans s'est rebellée. Alors dans la voiture, ils avaient peut-être de bonnes raisons de fuir puisqu'on a trouvé une arme de calibre 6.35, plusieurs centaines de grammes de cannabis et pas mal d'argent liquide. Le véhicule avait été pris en chasse par la police car il roulait très vite dans le centre-ville, avait commis plusieurs infractions routières jusqu'à l'accident qui aurait pu être bien plus grave. On part à Rennes, une ville chère à Patrick Roger, où hier en fin de journée, un jeune homme de 19 ans est mort après avoir été percuté par une moto faisant un rodéo dimanche en fin d'après-midi. Il était piéton. Les refus d'obtempérer, les rodéos, deux comportements criminels qui pourtant ne choquent pas certains politiques ou cinéastes qui disent que dans les refus d'obtempérer, ce sont les policiers qui ont tort et que ce sont eux qui causent la mort lors des rodéos. Voyez le film auquel je fais allusion, diffusé pendant le Festival de Cannes. Deux théories abracadabrantesques qui explosent en plein vol vu ces deux faits divers tragiques. Philippe Bilger, êtes-vous d'accord avec moi ?
Mais je suis totalement d'accord avec vous, Philippe. Le hasard fait que j'ai pu consulter hier des statistiques très précises sur le nombre de refus d'obtempérer, avec des conséquences parfois graves, mais la plupart du temps, il n'y a pas eu l'ombre d'un problème qui est par conséquent... votre indignation double est totalement justifiée dans la mesure où elle démontre encore une fois que les refus d'obtempérer sont suivis en général par des infractions qui sont souvent destinées à porter atteinte à l'intégrité de la police. Ce qui crée la confusion, et pardon de ressasser cela, c'est qu'on laisse croire que ce sont les refus d'obtempérer qui entraînent presque mécaniquement les blessures ou malheureusement la mort de ceux qui n'obtempèrent pas, alors qu'en réalité, le refus d'obtempérer est parfois suivi par une autre infraction, la voiture étant considérée comme une arme, et c'est ça qui crée les tragédies. Donc votre double indignation est totalement justifiée, et pardon d'avoir été un peu long pour la prouver, mon cher Philippe.
Lydia Guirouz.
On a affaire cette semaine à plusieurs drames qui auraient pu être évités si les personnes avaient effectivement accepté de s'arrêter, de présenter leurs papiers et simplement d'obéir aux policiers. Et c'est pas la première fois que ça arrive, mettant ainsi ces policiers-là dans des situations sans doute de stress. Mais l'enquête de l'IGPN va faire la lumière sur toute la situation. Mais il y a une règle qui est simple, c'est que quand la police vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. Et on évite de cette manière que ça se termine de cette façon-là et que, par exemple, une jeune fille trouve la mort à l'avant d'un véhicule.
Et pour le rodéo à Rennes ?
Mais c'est pour le rodéo à Rennes. Bah oui,
on avait une réalisatrice qui disait que les morts dans les rodéos, c'était la faute à la police. Là, la police n'était même pas présente.
De cette même façon, vous avez, je crois que c'est dans le Val d'Oise, le préfet et commissaire qui avait demandé aux policiers de ne pas poursuivre lors des rodéos urbains parce qu'on craint justement qu'il y ait des morts et qu'un drame arrive. Mais ne pas les poursuivre, c'est donner presque l'autorisation de s'adonner à ces rodéos. Et je me souviens quand j'étais lycéenne à Roubaix, très régulièrement devant le lycée que je fréquentais, il y avait un magnifique parc, le parc Barbieux. Et très souvent, il y avait des jeunes hommes qui passaient en scooter avec la roue relevée et qui jouaient à aller très vite au milieu du parc où des enfants, de jeunes mamans étaient en train de profiter tout simplement de ce jardin public. Mais si on ne les poursuit pas, c'est sans arrêt et c'est incessant. Et je trouve que c'est la mauvaise façon de prendre les choses. On a l'impression qu'il y a une forme d'impunité et de peur du délinquant, malheureusement.
Didier Lebray.
On demande beaucoup à la police, hein, c'est clair. On leur demande à la fois d'appliquer.
Bien dans le micro.
On leur demande d'appliquer le droit, l'état de droit, et donc de faire en sorte que ceux qui sont appréhendés puissent présenter leurs papiers. Donc ça c'est clair que ça entre dans leur mandat. On leur demande aussi de le faire avec professionnalisme, avec doigté, avec proportionnalité. Donc dans des situations qui sont par définition des situations d'urgence. C'est rare que toutes les conditions soient réunies pour que ça se passe de manière optimale. Donc je dirais que le risque est aussi inhérent à ce type de mission.
Parce que j'en entends certains qui disent que le type qui roule à 100 à l'heure dans les rues de Toulouse, il ne faut pas le prendre en chasse parce que sinon ça peut causer des drames. Je trouve ça complètement hallucinant. Vous imaginez les deux femmes qui ont été blessées, la mère et sa fille, dans la 3008, elles auraient été à vélo ou en scooter ou même dans une Twingo. Vous imaginez le drame, il y avait deux femmes tuées.
C'est pour ça que, je répète, c'est difficile pour la police à la fois d'être dans une approche de discernement absolu et dans l'urgence de l'action qui... Quiconque a exercé des missions de ce type sait qu'on a souvent du mal à ajuster les deux. Donc, une fois encore, si dérapage il y a, c'est à l'IGPN et à la justice de faire la lumière. Et s'ils ont agi dans le cadre de leur mandat et au mieux qu'ils pouvaient, dans ce cas-là, la justice le dira aussi.
Lèverez-vous à 17h14, à 17h30, notre premier débat. Faut-il rendre les squatteurs expulsables immédiatement ? Vous êtes 96,5% à dire oui. Vous voulez réagir ? Vous avez eu des squatteurs, tiens, chez vous. Le 0826-300-300, on se retrouve de suite avec Les Vraies Voix.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirouz et Didier Lebray. C'est l'heure des tours de table de l'actualité.
Les Vraies Voix Sud Radio.
Je suis malade, complètement.
Serge Lama, oui, je suis malade, c'est l'hôpital français qui est malade. c'est le docteur Skirzek qui parle de tiers-mondisation du meilleur système de santé au monde, mon cher Philippe Bilger.
En effet, Philippe, vous savez, et Sud Radio aussi, qu'on aime beaucoup Gérald Kerzek, qui a toujours eu un savoir, une compétence qui n'ont pas varié au gré des événements. Et il a indiqué récemment, dans un entretien qui a fait du bruit, qu'aujourd'hui, alors que l'hôpital français était à une certaine époque le meilleur du monde, aujourd'hui qu'il était en voie de tiers-mondisation. Alors, c'est une formule choc, mais qui semble exacte compte tenu de l'état de l'hôpital, compte tenu de tout ce que disent les gens qui participent à des niveaux divers avec compétence et dévouement à la tâche hospitalière. Le docteur Kerzek exprime un élément, un argument et un propos qui montre à quel point il y a quelque chose dans la gestion qu'opère le pouvoir qui même pour un amateur comme moi, suscite une réflexion un petit peu étonnée. D'abord, cette mission flash, si je ne me trompe pas, est complètement absurde, puisqu'elle cherche à révéler des enseignements qu'on connaît depuis 3 ou 4 ans. Et deuxième élément, et j'ai fini là-dessus, on voit la ministre de la Santé qui, évidemment, est obligée de proposer des mesures d'urgence pour répondre aux défis des urgences durant l'été. Donc, lorsque le docteur Kerzek, avec sa compétence et son parler vrai, énonce cette évidence qui peut surprendre, eh bien, elle semble tout de même être très proche de la réalité qu'on vit.
Lydia Guirousse.
L'hôpital français souffre et ça date pas d'hier, malheureusement. C'est vrai qu'il est totalement en déclin et d'ailleurs une partie du personnel soignant aujourd'hui assume qu'il y ait ce qu'on appelle des pertes de chance pour les patients. Vous avez une centaine d'urgences, de services d'urgence qui sont fermés.
C'est ou extrêmement... en fermeture partielle, ouais. Ou il y en a 120 en tout.
Donc c'est quand même extrêmement important. Les délais de prise en charge sont beaucoup plus longs qu'il y a quelques années. J'ai encore pu le constater avec une personne de ma famille qui a fait un AVC. Et normalement, ça doit être pris en charge dans les 3 heures. Au bout de 11 heures, elle était toujours dans un couloir et pas de scanner. Il a fallu la sortir pour qu'on puisse la prendre en charge ailleurs, sur un autre département, en la transportant nous-mêmes. Je vous passe les détails et je ne citerai pas l'hôpital dans lequel ça s'est déroulé, elle aurait pu perdre la vie. Et ça, les soignants, ils n'ont plus les moyens d'accueillir parfois dignement des gens qui sont en souffrance. Ils doivent trier. Mais sur le court terme, nous n'allons pas réussir, je pense, à redresser la barre sans des investissements massifs, sans aussi libérer un peu la formation, le fameux numerus clausus qui a été ouvert pour les médecins. Mais les effets vont se faire sur plusieurs années. Et je pense que pour les mois qui viennent, je ne vois pas comment on va réussir à soigner dans les meilleures conditions sans faire appel même à des médecins ou des infirmières étrangères. Aujourd'hui, la PHP fonctionne beaucoup avec des médecins qui sont d'origine étrangère et notamment du Maghreb. Je pense que pour tout ce qui est personnel soignant, notamment les infirmières, il va falloir faire appel à du personnel étranger pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, vous avez un personnel qui est épuisé. Vous avez une partie du personnel... Ils sont sous-effectifs parce qu'il y a un absentéisme qui atteint 40% dans certains établissements aussi. Et ils sont aussi en sous-effectif parce que certains ont compris qu'ils voulaient changer de vie, changer de voie parce qu'ils ont découvert ce qu'était la vie en dehors des nuits de garde, en dehors des week-ends surchargés pour un petit salaire et qui préfèrent aller dans d'autres secteurs d'activité. Donc les recrutements sont très très difficiles. Même si depuis des années, l'hôpital fonctionne avec l'appel à l'intérim de manière massive. Mais aujourd'hui, l'intérim, ça ne suffit plus. Même en appelant les agences d'intérim, on ne trouve pas le personnel pour pouvoir remplacer ceux qui sont absents.
Didier Lebray, l'hôpital français en voie de tiers-mondisation.
Voilà, la situation, je dirais qu'elle est bien sûr dramatique, mais surtout paradoxale. On sort de 2 années de pandémie, on a vu les enjeux qui s'attachent aux questions sanitaires. On sait maintenant que dans la compétition même économique mondiale, avoir un secteur de la santé qui est puissant, bien organisé, c'est un facteur d'attractivité considérable. Et aujourd'hui, le diagnostic, il a été fait 200 000 fois. Je veux dire, on a 50 rapports de la Cour des comptes, toutes sortes d'organisations qui ont été faites, qui mettent exactement qui ont posé le bon diagnostic. Aujourd'hui, c'est vraiment une question de volonté. Est-ce que c'est prioritaire? Si c'est prioritaire, il faut prendre le
taureau
par les cornes. Et il va y avoir un autre effet de bord de cette affaire, c'est que si cette paupérisation va jusqu'à son terme, vous aurez un problème de recrutement. J'ai croisé ce matin une infirmière en dernière année d'école qui va avoir son diplôme. Je lui dis, vous allez aller où dans la fonction publique? Elle me dit, non, je crois pas, peut-être plutôt en libéral parce que c'est trop dur. Donc il va y avoir, bien évidemment, si le secteur se paupérise, il sera plus attractif.
Ah oui.
Et on a déjà des services complets qui sont en déshérence.
On va passer à votre tour de table, mon cher Didier Lebray. C'est la liquidation d'une marque qu'on connaît bien, le groupe Matine, les œufs.
Alors, ça peut paraître anecdotique, ça a été couvert par la presse spécialisée assez peu par la presse grand public, mais ça me paraît une nouvelle très intéressante et très emblématique de la transition des transitions qu'on est en train de vivre. Alors, le groupe Matine, c'est quand même, c'était 20% des œufs dans la grande distribution, 1 milliard d'œufs annuels, c'est pas rien. Le groupe va fermer. C'est le dernier groupe français qui a traîné à effectuer sa mue environnementale, qui a été épinglée par l'ONG L214 comme étant celle qui maltraitait de manière évidente dans ses poulaillers, ses batteries industrielles. Et à force d'avoir traîné, leur investisseur principal, leur actionnaire majoritaire, le groupe Avril, a décidé de sortir. Donc moi, je tire deux ou trois enseignements de cette affaire qui me paraît très intéressante. La première, c'est que ceux qui ratent la transition alimentaire ou la transition écologique de manière générale, qui ne sont pas assez soucieux de ce qu'aujourd'hui il y a une exigence réelle du bien-être animal, par exemple, mais pas seulement, se pénalisent et risquent la sortie de route. Le deuxième enseignement que je trouve intéressant, c'est que, au fond, les actionnaires, aujourd'hui, ont intérêt aussi à accompagner ce mouvement. Et s'ils ne l'accompagnent pas, ils savent aussi qu'eux-mêmes peuvent être menacés. Et le troisième enseignement que je retire et que je trouve encourageant, c'est que au fond, on voit que l'aiguillon, la société civile, les ONG, aujourd'hui, a une vraie capacité d'agir sur ces transitions en les accélérant. Alors, avec un bémol, L214, bien sûr, c'est les images terribles qu'on voit
de type
concentrationnaire des abattoirs, etc. Mais il faut aussi être conscient que ces ONG, parfois, ne sont pas complètement neutres. Alors, L214, en l'occurrence, il y a une polémique. Est-ce qu'ils ne sont pas financés en partie par le lobby, vous savez, de ceux qui veulent une alimentation à la viande artificielle? Mais néanmoins, en tout cas, le premier effet positif, c'est que ça accélère les réformes.
Philippe Bilger.
Alors, mon cher Didier, je vais marcher sur des œufs dans la mesure. Je ne connaissais pas le groupe Matine et d'autre part, vous le savez, Didier, je ne suis pas un fanatique, j'entends sur le plan du savoir écologique. Mais je suis étonné et en même temps, à entendre votre propos, il ne faut pas s'en étonner par le fait que les injonctions écologiques aujourd'hui prennent non seulement le tour de menaces, mais créent très concrètement la disparition de groupes qui ne respectent pas les règles élémentaires d'écologie. Apparemment, il faut s'en féliciter, si je vous entends bien, mon cher Didier, même si je trouve que le couperet est un peu dur tout de même. Mais bon, c'est parce que je n'ai pas votre sensibilité écologique et moderne.
Lydia Guirous.
Bah, c'est toujours triste de voir un groupe français fermé. Matine, c'est vrai qu'on avait l'habitude de voir
les
ceux
boîtes,
qui font leurs courses eux-mêmes, de voir les boîtes dans le supermarché. Donc, s'imaginer que Matine n'existera plus et on n'aura plus ses œufs, c'est quand même. Moi, je le découvre avec votre tour de table. C'est vrai que personne en a parlé. Mais effectivement, il y a une influence de ces associations qui luttent sur des sujets qui sont un peu avant-gardistes et qui luttent avec des moyens de communication qui sont très modernes, avec des images témoignage qui choque. Ça a fait le tour. Vraiment, tous les médias en ont parlé et tous les Français ont été informés et ont été émus face à ces images de ces poulets, de ces poussins écrasés. Et puis pour d'autres secteurs également avec d'autres animaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vois pas quel groupe peut faire l'économie du bien-être animal. Bien-être animal qui a aussi un impact sur la qualité de ce qu'on a dans nos assiettes ou de la question environnementale et même si on tire un peu plus loin tout ce qui concerne la représentation des minorités de l'égalité homme-femme sur la question des salaires et des carrières tous ces sujets-là sont aujourd'hui fondamentaux pour les entreprises et sont très importants pour les actionnaires parce que ça a un impact sur les résultats, sur l'image aussi qui est extrêmement importante pour eux.
Pour faire du Philippe Bilger, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Les vraies voix, 17h, 28 minutes et 30 secondes. Dans quelques instants, notre premier débat. Faut-il rendre les squatteurs expulsables immédiatement? Vous êtes 96,9% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826-300-300. On se retrouve de suite avec les vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirou, c'est Didier Lebray.
Alors voilà la maison, on vient d'acquérir le 19 mai. C'était un projet de vie qui allait aboutir, mais on a rencontré un gros problème. 19 mai, quand on est parti signer, on est venu ici pour faire la fête et on a rencontré des squatteurs. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a la voiture qui est toujours là. Et à l'intérieur, il y a une famille.
Un couple et quatre enfants qui sont dans la maison et qui ne veulent pas partir.
On a vu des cas à Théoul, c'était une résidence secondaire sur la Côte d'Azur, à Toulouse où un retraité avait eu sa maison squattée 3 fois en 2 ans, ou encore à Lozère dans le Tarn-et-Garonne où un squatteur terrorisait un retraité. Cet extrait, vous l'avez entendu, c'est à Olainville, dans l'Essonne, qu'un couple qui vient d'acheter une maison se retrouve avec une maison squattée par une famille tunisienne avec 4 enfants qui doit avoir payé la maison 120 000 euros en liquide en montrant une feuille volante sans en-tête. Un jeune couple dans la difficulté qui gagne 2600 euros par mois et qui ne va bientôt plus pouvoir faire face au loyer de leur location et de leur logement squatté. Mais un couple qui s'est probablement fait avoir car sur l'acte de vente était mentionné, je cite, une occupation sans droit ni titre de la maison, ce à quoi Laurent, l'homme du couple, répond qu'il ne s'imaginait pas qu'une famille s'était installée. Devant ce nouveau scandale, Gérald Darmanin réagit sur Twitter en demandant au préfet de l'Essonne d'engager la procédure de l'article 38 de la loi Dalo, la loi du droit au logement opposable, pour une évacuation rapide des occupants illégaux. On espère une issue heureuse pour les familles comme les victimes, comme dans les cas précédemment cités, d'où notre premier débat. Faut-il rendre les squatteurs expulsables immédiatement? Et vous êtes 97,2% à dire oui. Avec nous, Romain Rossilandi, avocat spécialiste des squats. Bonsoir, maître Rossilandi.
Bonsoir.
Alors là, je suis tombé de l'armoire. Comment peut-on vendre un bien avec, je cite, une occupation sans droit ni titre de la maison?
C'est parfaitement légal. À partir du moment où le vendeur informe son acquéreur que le bien est squatté, en l'occurrence, il n'y a pas de problème pour vendre ce bien occupé avec des occupants sans droit ni titre. Donc l'acquéreur avait été informé. Mais je ne crois pas que ça soit tellement le sujet. Et d'ailleurs, il l'a reconnu, je crois, dans les différentes interviews qu'il a faites. Il sait ce qu'il achète. Il achète une maison squattée. Donc c'est vrai que venir dire aujourd'hui devant les médias c'est scandaleux, la maison est squattée. Bon, il le savait puisqu'il avait été informé dans l'acte. Cela étant, ça ne le prive pas du droit, effectivement, de bénéficier de cette nouvelle loi, l'article 38 de la loi Dalo. Pour demander l'évacuation administrative de ces gens qui occupent effectivement, a priori, sans droit ni titre, cette maison.
Philippe Bilger.
J'espère ne pas choquer notre ami avocat. Je dis notre ami parce que nous avons déjà eu le bonheur de l'entendre sur Sud Radio.
Non mais ne l'accusez pas de squatter les ondes de Sud Radio. Hein.
Non, pas du tout. Je l'aime beaucoup. Pardon de tomber dans une forme de brutalité qui tordra un peu l'état de droit classique. Et ça n'est pas le point de vue du magistrat que je ne suis plus, parce que j'ai toujours pensé cela. Je pense que, à propos des squats, comme à propos d'autres catégories de la délinquance, voire de la criminalité, nous avons un état de droit trop sophistiqué qui appose sur l'ensemble des transgressions une une grille unique, procédurale, trop longue, qui est trop éprouvante. Et je rêverais, et c'est peut-être le cas, à entendre le ministre de l'Intérieur qui apparemment a poussé les feux auprès du préfet. J'aimerais qu'on ait pour certaines infractions qui sont caractérisées par l'évidence de leur réalité, des procédures extrêmement rapides qui nous épargnent les arguties juridiques et les discussions à perte de vue sur la responsabilité, la culpabilité, lorsqu'à l'évidence, il y a des victimes et il y a des auteurs. Je sais que je n'ai aucune chance d'être entendu en dépit du fait que les vraies voix font de plus en plus d'auditeurs, mais je rêverais de ça, parce que sinon on aura en permanence, je le dis délibérément avec provocation, des victimes indéniables, incontestables, qui seront durant des mois, des années peut-être, victimes d'un état de droit qui, au lieu de les aider, va les desservir.
Romain Rossi l'en dit.
Moi, je suis d'accord avec vous, tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, moi, j'observe dans ces dossiers de squat, parce que je suis l'avocat effectivement de nombreuses victimes de squat, que d'abord, on doit se battre contre les autorités, déjà pour qu'elles acceptent de prendre votre plainte. C'est déjà très compliqué de pouvoir déposer plainte pour violation de domicile. Et ensuite, la plupart du temps, on doit se battre contre le préfet qui ne veut pas agir. Et j'observe que c'est vraiment du cas par cas. Je vous donne des exemples. Moi, j'ai des dossiers en Seine-Saint-Denis. Curieusement, dans le 93, je n'ai jamais aucun concours de la force publique de la part du préfet. J'ai d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vu que d'ailleurs cet après-midi, M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, avait demandé au préfet de l'Essonne d'intervenir justement sur le fondement de l'article 38. Alors je suis étonné parce que moi, quand je lui demande à M. Darmanin, dans mes dossiers, dans le cadre de recours hiérarchiques que j'ai fait suite à des refus du préfet de Seine-Saint-Denis, M. le ministre n'a pas répondu, n'a pas donné suite, n'a pas appliqué cet article 38. Donc il y a deux poids, deux mesures. Quand il n'y a pas de médias, on n'applique pas l'article 38. Par contre, quand il y a des médias, comme dans cette affaire de l'Essonne, et finalement, c'est peut-être la meilleure chose qu'ils aient faite, ces gens-là, ces victimes, c'est d'alerter les médias. C'est pour ça que leur dossier va peut-être bouger et que manifestement, si le préfet de l'Essonne a reçu des instructions, il y aura un concours de force publique dans les prochains jours. Là, je voulais répondre quand même à Philippe Bilger. En tant qu'ancien magistrat, vous le savez bien, il y a certains cas où la situation n'est pas simple. Il y a certains cas où la situation de l'occupant n'est pas toujours très claire. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, dans cette affaire, c'est bidon, ils ont une promesse de vente, je ne sais pas quoi, acheté en espèces. On sait très bien que ça ne tient pas la route. Et moi, je vois des cas, des dossiers, on voit des faux contrats de location qui paraissent parfois vrais. Et dans ce cas-là, je pense que le préfet n'est pas compétent pour apprécier la bonne foi de l'occupant. Je pense que c'est au magistrat, c'est au juge de faire ce travail. Et là, vous avez tout à fait raison, et je vous rejoins. À ce moment-là, il faudrait qu'on ait des procédures accélérées, archi-urgentes, pour qu'on puisse avoir des décisions en quelques jours et non pas malheureusement en quelques mois, voire quelques années, comme c'est le plus souvent le cas.
Lydia Guirousse.
Moi, c'est vrai que je suis frappée par ces affaires de squattage. Il y en a eu plusieurs qui ont été médiatisées. Et on a l'impression que lorsqu'il n'y a pas de médiatisation, il n'y a pas d'action et les propriétaires se retrouvent enlisés dans des procédures.
Les trois cas que j'ai cités, on en a parlé sur Sud Radio, pas que Sud Radio. Dans les trois cas, ça a été, parce que beaucoup de médias en ont parlé, réglé en quelques jours.
Parce que beaucoup de médias en ont parlé très bien. Donc, s'il n'y a pas de médiatisation, il n'y a pas d'action. Et les propriétaires s'enlisent dans des procédures qui sont longues, qui sont coûteuses, qui moralement désespèrent quand même beaucoup ces familles. Mais je me demande si ce n'est pas un peu révélateur d'un esprit français qui veut que le propriétaire soit une personne vilaine, méchante, riche, et donc il ne faut pas l'aider à retrouver la pleine jouissance de son bien. J'aimerais qu'il y ait effectivement une procédure beaucoup plus rapide pour permettre aux personnes de retrouver leur pleine propriété. Et là, cette affaire, il y a quelque chose d'un peu, pardon pour l'expression, mais un peu foireuse avec cette promesse de vente, ces 120 000 euros en liquide. Tout à l'heure, maître, vous avez parlé de contrats de bail qui ont l'air presque vrais, mais c'est très facile de vérifier s'il y a des virements effectifs ou pas, un paiement de loyer. Je trouve qu'on n'arrive pas à agir assez rapidement et ça peut, je pense, dans certains cas, amener à des situations de violence.
Romain Rossi l'en dit.
Oui, vous avez raison. Parfois, c'est assez facile, mais il y a des cas, là, je ne parlais pas de cette affaire-là, mais il y a des cas où ce n'est pas si évident que ça. Quand on voit un contrat de location, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux ? Bon, quoi qu'il en soit, c'est au préfet d'apprécier. Mais en 48 heures, ce n'est pas toujours facile, croyez-moi. Parce que la loi dit qu'il a 48 heures pour vous répondre. Donc moi, je crois que dans ces cas-là, il préfère prendre son temps, le préfet, et puis envoyer voter en touche en disant « Allez, devant le juge, il fera son travail, et puis il y aura un débat contradictoire. » Par contre, effectivement, là où je vous rejoins tout à fait, c'est que c'est toujours le même qui trinque. C'est toujours le propriétaire à la fin. Je suis désolé, il n'a aucune raison de payer l'addition. Il est squatté. Je le dis souvent, le droit au logement, ce n'est pas le droit au squat. Ce n'est pas de la faute du propriétaire s'il n'y a pas malheureusement assez de logements dans le pays. Et c'est assez symbolique. Aujourd'hui, on n'a même plus de ministre du logement. Le nouveau gouvernement, il n'y a pas de ministre de logement. Je suis toujours sidéré de voir ces campagnes présidentielles. On ne parle jamais, jamais, jamais du logement, qui est pourtant le premier poste de dépense des Français. Et aujourd'hui, on n'a même plus de ministre du logement. Donc, je n'ai pas l'impression que le problème du squat soit la priorité de notre gouvernement.
Didier Lebray.
Bon, ce que je trouve intéressant dans ces dossiers, c'est que ça met en valeur des contradictions qui sont constitutives, je dirais, de l'état de droit. Il y a le droit de la propriété, qui est un droit très puissant, qui est une déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un droit imprescriptible, inaliénable. Il y a en même temps le droit au logement, qui a été aussi inscrit dans la Constitution dès 2007, qui est un droit qui est reconnu d'ailleurs sur le plan international. Et puis il y a le droit qui peut paraître un peu baroque des squatteurs, qui est un droit d'une autre catégorie, parce que c'est celui qui encadre la décision d'expulsion des squatteurs, donc selon un certain nombre de critères. Et ce ne sont pas des droits de même nature, c'est évident. Mais le problème de fond, pour moi, c'est peut-être même moins un problème de droit. D'ailleurs, le droit a un peu évolué. Il y a des procédures maintenant d'urgence qui peuvent être, vous l'avez rappelé, opérées directement par le préfet. Dans les cas, d'ailleurs, où le préfet est saisi, j'ai lu quelque part que dans les deux tiers des cas, le bien a été récupéré. Donc c'est une procédure qui est juste mal connue, mais qui existe. En fait, pour moi, le problème fondamental, c'est que vous avez un écart qui tente à se croiser au fil des décennies entre l'offre de logement et la demande de logement. Je vous cite quelques chiffres. Les prix, depuis l'an 2000, donc en 20 ans, ont augmenté de 150%, 300% à l'Île-de-France. Vous prenez les 10% des ménages les moins aisés, leur budget consacré au logement, c'est 40%. Le nombre des sans-abri a explosé. Donc ça dit quoi? Ça dit qu'on est dans une situation où l'offre de logement est insuffisante. Le choc qu'on nous a annoncé de construction de logements, il tarde à venir. Donc
excusez-moi, peut-être qu'en ayant fait l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, et en interdisant sans des procédures énormes l'expulsion des mauvais payeurs et des squatteurs, on fait tout pour que les gens n'aient pas envie d'investir dans de la pierre non plus.
Sans doute, mais en tout cas, il y a un problème de fond entre le besoin de logement, en tout cas pour les foyers les plus modestes, à des prix abordables, et l'offre actuelle. Alors je ne dis pas que ça explique le fait que vous y a des gens qui squattent des appartements ou des maisons. On a même, j'ai regardé sur Internet avant de venir, il y a même des guides sur Internet comment squatter de la manière la plus efficace. Donc ça veut dire qu'il y a des filons qui, à l'évidence, sont exploités pleinement par des gens sans vergogne. Mais une fois encore, en l'état du droit, alors c'est clair que si on en réfère à la justice, ça peut prendre deux ou trois ans. Mais aujourd'hui, je comprends que la procédure accélérée, elle est peu mobilisée, mais qu'elle est efficace.
Romain Rossi l'en dit.
Oui, vous avez complètement raison. Cette procédure accélérée, elle est très mal connue, évidemment, du public. Elle est mal connue aussi, ça c'est plus embêtant, des forces de l'ordre, des gendarmes ou des policiers. Parce que moi, je crois que d'ailleurs dans cette affaire, les gendarmes ont dit non, on ne peut rien faire parce que ça fait plus de 48 heures qu'ils sont installés dans les lieux. C'est pas vrai. Il n'y a pas de besoin. Le squat, c'est une infraction à la fois instantanée et continue, qui se renouvelle chaque jour. Donc, à partir de là, on n'est pas obligé d'intervenir dans les 48 heures. Ça, on l'entend trop souvent. C'est comme cette notion de domicile, effectivement, qui veut tout et rien dire. Aujourd'hui, la loi, la réforme, en tout cas, a bien précisé que ça s'appliquait, cette réforme, à toutes les occupations, que ce soit votre domicile ou pas votre domicile. Parce que là, en l'occurrence, on pourrait avoir un argument. Le préfet, s'il était vicieux, il dirait « je ne peux pas intervenir parce que ça n'est pas votre domicile, vous n'y avez jamais habité ». Voyez, moi je suis curieux de savoir quelle va être la réponse du préfet. Moi j'ai eu dans d'autres dossiers des réponses dans ce style-là, si vous voulez. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va devant le tribunal judiciaire Et là, on est parti pour 2 ans. Par contre, on gagne toujours ces dossiers, mais ça prend 2 ans.
Et ça coûte de l'argent. Je vous avais ça parlé de la Seine-Saint-Denis, Romain Rossilandi. Je connais quelqu'un dont Valérie Expert a parlé ce matin, qui a hérité d'une petite maison en Seine-Saint-Denis. On lui a dit ici, il faut murer la porte, les fenêtres et même la cheminée, parce que sinon, ça va être squatté à grande vitesse. Et de toute façon, vous avez parlé du préfet de Seine-Saint-Denis, qui manifestement ne vous soutient pas. Les pouvoirs publics ne feront rien. Est-ce qu'on n'est pas au royaume du Père Ubu ou chez Kafka?
Ben moi, je trouve ça fou. Oui. Je trouve ça fou. Il n'y a plus d'expulsion du tout en Seine-Saint-Denis. Il y a des consignes très claires, que ce soit pour un locataire qui a été expulsé ou pour un squatteur, il n'y a pas d'expulsion.
Et c'est quelqu'un de Sud Radio.
En fait, les consignes qui sont données, si j'ai bien compris, au préfet, sont de deux ordres. Il y a l'ordre public, donc si ils ont le sentiment que pour les expulser, ça va créer une émeute, ils n'iront pas. Et ensuite, des considérations qui sont liées à la dignité humaine. C'est-à-dire que quand vous avez une famille avec des enfants en bas âge ou scolarisés, il n'y aura pas d'expulsion. Mais voilà, à l'exception de ces deux principes, pour le reste, le préfet a toute latitude de prendre les mesures qui s'imposent.
Romain Rossi,
on a peur de faire exécuter la loi, c'est clair.
Et l'État, j'ajoute que l'État préfère, parce que moi je fais condamner l'État pour refus de concours de force publique. Donc je fais des recours devant le préfet en disant vous n'avez pas accordé de concours de la force publique, j'ai des décisions de justice définitives, vous n'exécutez pas une décision de justice, donc je vous demande une condamnation et c'est l'État qui paye l'addition. Donc moi je dis toujours à mes clients, attention, ça va peut-être accélérer le processus, parce que là ça commence à coûter un peu d'argent à l'État, c'est pas vous qui payez. Mais en Seine-Saint-Denis, ça ne bouge pas. Donc l'État paye régulièrement. Je reviens tous les 6 mois en disant « j'ai toujours pas de concours de force publique, merci de me faire un chèque ». Et c'est comme ça que ça se passe.
Et juste une question, le chèque est de combien pour se faire
le chèque idée. Correspond au prix des indemnités d'occupation. C'est l'équivalent du loyer en fonction de la valeur locative.
Donc plus les frais d'avocat, etc. Parce que ça coûte cher, les avocats.
Non, on obtient que les indemnités d'occupation à compter du refus de concours de force publique. Et ça marche à tous les coups, ça.
D'accord.
Malheureusement, on n'en parle pas. Alors, les gens ne le savent pas. Donc, les gens qui ont un avocat vont le faire. Mais la plupart des gens ne font rien.
C'est pour ça qu'on en parle sur Sud Radio. Merci beaucoup, Romain Rossilandi, avocat spécialiste des squats du logement. Verdict sur Twitter. Faut-il rendre les squatteurs expulsables immédiatement? Vous êtes désormais 97,2% à dire oui. La chronique politique de Philippe Rossi pour se décontracter un peu, ça vous va?
Ah ben bien sûr, on l'attend.
Eh bien, c'est sûr. Tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Didier Lebray. C'est l'heure de la chronique politique de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Oh, on prend la direction du Sud-Ouest. Emmanuel Macron est en déplacement dans le Tarn.
Oui, sur le thème de la sécurité, hier le chef de l'État était à Clichy-sous-Bois. Emmanuel Macron a décidé de se mouiller et d'entrer de plein pied dans la bataille des législatives. Ça y est, on y est. À Clichy-sous-Bois, hier, le chef de l'État était officiellement en déplacement pour inaugurer un dojo solidaire, un tiers-lieu sportif au cœur d'un petit centre commercial en béton en vue des JO 2024. Et Emmanuel Macron n'a pas échappé aux réflexions et questions des badauds qui l'entouraient, en majorité des jeunes ados. Certains d'ailleurs n'ont pas hésité à clamer leur amour pour le président.
Macron, t'es le meilleur,
Macron. Et oui. T'es le meilleur, ça fait plaisir. Hein, ça. Alors Emmanuel Macron lui a quand même rappelé à la question « tu vas gagner » qu'il avait déjà gagné et qu'il s'était d'ailleurs mis au travail. D'autres enfants présents ont parlé des sujets qui fâchent. Le sujet en question, Jean-Luc Mélenchon. Écoutez cette petite fille très enthousiaste. On va élire Mélenchon. Il est où Mélenchon, lui demande cette petite fille. Réponse du chef de l'État. Écoutez ses explications. Je ne veux pas qu'il gagne aux législatives, Mélenchon. Sinon, après, je ne pourrai pas faire les choses. C'est pour ça que je suis là. Et oui, c'est pour ça que Macron retourne sur le terrain. Il sent bien que ça va être très, très compliqué. Et il envoie d'ailleurs ses plus fidèles soldats. Par exemple, Jean Castex. C'est le retour en politique de l'ancien Premier ministre.
C'est Véran et Castex.
Alors, Olivier Véran n'était pas là. Hein. Ils ne se sont pas collés. Il y avait seulement Jean Castex venu soutenir le candidat Gabriel Attal à Issy-les-Moulineaux. Il en a d'ailleurs profité pour cibler Jean-Luc Mélenchon. Encore lui, l'ancien Premier ministre, a fustigé un discours de régression de la part des extrêmes entre une extrême droite dont on a du mal à lire le programme, dit-il, et une gauche dont le centre, happé par Mélenchon, s'est dangereusement déplacé au mépris de ses valeurs et de son histoire. Voilà, on sent bien que la Macronie panique.
Les pompiers, la maison qui brûle.
Oui, l'Assemblée qui brûle, hein. Alors, avec tous ces déplacements, le chef de l'État peut-il renverser la tendance, Philippe Bigère? Tiens, je commence avec vous. Est-ce qu'il peut inverser la courbe?
D'abord, je ne suis pas persuadé que Ensemble soit dans une si mauvaise situation. Deuxième élément, pour la manière dont ils mènent campagne, Cherbourg, ça a été la santé, Marseille, ça a été l'éducation. Il va à Gaillac pour nous parler de la sécurité. Ce saucissonnage politique ne m'apparaît pas comme une, comment dirais-je, comme une absolue cohérence dans la campagne. J'y vois plutôt une forme de démagogie qui aborde un chapitre après l'autre. Qu'il n'aime pas la NUPES, c'est clair. Mais bon,
la NUPES le lui rend bien.
Oui, ça c'est sûr.
Voilà,
ça
absolument. C'est
sûr. Didier.
Je crois qu'il est, il était temps qu'il entre,
ah oui, bah oui.
Il entre en campagne. Parce que
il n'y a pas eu de campagne.
La nature est horreur du vide. On a le sentiment, au fond, que tous les thèmes sont imposés aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon. Donc, il y aura une prime. Forcément à celui qui a occupé tout l'espace médiatique depuis le lendemain du deuxième tour de la présidentielle.
Est-ce qu'il doit vraiment avoir peur de la NUPES, Emmanuel Macron?
Il y a quand même une dynamique derrière NUPES qu'on peut pas nier. Ils sont très forts dans les sondages. On verra ce que ça donnera, non pas au soir du premier tour. Le plus important, c'est quand même au second tour. Je pense qu'il y aura quand même et des reports de voix, une mobilisation, parce que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon fait peur. Et je pense que ce déplacement sur la sécurité d'Emmanuel Macron, c'est aussi un clin d'œil envoyé à des électeurs de droite, qui peuvent être tentés de se dire bon, tant que c'est perdu pour nos députés, autant aller vers ceux de la majorité présidentielle. Mais il était temps de faire campagne. Mais c'est une façon, je trouve que régulièrement, Emmanuel Macron, c'est son mode opératoire. Il rentre dans l'arène politique très tardivement. Et puis, que ce soit aux européennes ou à la présidentielle, il a réussi quand même à renverser un peu la vapeur et à créer une surprise qui lui était très favorable.
Ah, on verra le 19 juin, donc au soir du deuxième tour.
On termine avec le programme insolite d'une candidate La République En Marche.
Oui, la candidate, c'est Catherine Fabre, candidate dans la deuxième circonscription de Gironde. Alors, c'est la députée sortante. Elle se présente donc à sa réélection et prévoit, écoutez bien, pour les 5 ans à venir, d'inviter 300 électeurs à dîner chaque mois. Alors, je ne pense pas que la députée sortante proposera un fast-food. Hein. Des citoyens seront tirés au sort sur les listes électorales et conviés par courrier. Des repas payés par son enveloppe parlementaire. C'est pour ça que Catherine Fabre a indiqué que ce serait un repas plutôt très simple autour d'une salade et de quelques quiches. Donc voilà, ce sera bien une ambiance fast-food. Hein. Alors, à noter que Catherine Fabre, quand même, ces derniers mois,
Donc, elle n'est pas une quiche.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, elle a invité ces derniers mois, effectivement, les habitants de sa circonscription à dialoguer avec elle autour d'un dîner. Et elle s'engage à le faire tous les mois. Donc, 12 mois dans une année, vous multipliez par 5. Ça fait plus de 50...
Ça fait 300... multiplié par 12, ça fait 3600 par an. Multiplié par 5, ça fait 18 000 repas en une mandature.
Voilà. Alors...
Elle s'invite pas chez eux comme
Giscard. Oui, ça c'est sûr. Elle joue la proximité, Didier Lebray. C'est une bonne initiative selon vous. Alors c'est,
je crois que tous les moyens sont bons pour attirer l'attention. Dans un contexte où il risque d'y avoir une désaffection massive des électeurs, c'est une façon parmi nous. Moi je regardais les affiches près de l'école où j'habite. Donc j'ai le choix entre voter pour un canard, qui est sympathique, c'est Saturnin, on l'a reconnu. Il y a une dame aux attraits très particuliers qui devait faire dans les années. Ça nous rappelle les heures glorieuses du Minitel rose.
Ouais. C'était il y a longtemps.
Et ensuite il y a trois ou quatre partis qui ont le même dénomination. Il y en a qui sont de radicaux de gauche, d'autres de gauche radicale de la gauche. Enfin, honnêtement, j'imagine pour quelqu'un qui est un peu versé en politique, on arrive à trier les choses. Mais pour quelqu'un un peu extérieur, il regarde ça et il se dit bon.
C'est un peu triste quand même de promettre des dîners.
Oui.
C'est une façon d'attirer l'attention. Oui. Si on le regarde positivement, on se dit qu'elle tente de créer du lien avec ses électeurs. Donc pourquoi pas. Mais ce qui est triste, c'est que vous avez une majorité des Français, je crois un Français sur deux, qui ne sait pas qui est son député. Donc
oui,
ça
vrai,
démontre bien le manque d'intérêt qu'ont les Français pour et cette élection, mais ça c'est de manière récurrente, mais surtout pour le travail de leurs députés. Il y a quelque chose à reconstruire.
Enfin, je constate une chose sur Didier Lebray, il y a deux partis qui l'ont fait tiquer. Le parti animaliste, canard, moi ça rime avec foie gras, c'est les origines du Sud-Ouest, et le parti du plaisir. Je sais pas, entre les deux, votre cœur balance.
Ça parle à nos sens.
Vous voteriez auquel entre les animalistes et le parti du plaisir?
J'ai un petit faible pour le tenton, le canard. Ah, il m'a plu.
Philippe Bilger, entre les deux, votez pour qui?
À moi, carrément, le parti du plaisir.
Bah oui, il a raison. Lydia Guirous, allez-y, parlons vrai.
Je pense qu'il faut s'unir dès le second tour.
Philippe Rossi. Bah oui, entre un canard et le parti du plaisir.
Bah
oui.
Moi, je vote pour les deux à la fois, c'est pareil.
Le canard et le plaisir.
Merci beaucoup, Philippe Rossi. À 18h30, notre grand débat. Origine du Covid, doutez-vous de la thèse officielle? Vous êtes 96,6% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur du livre Libre propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Lydia Guirous, essayiste, auteur du livre Assimilation, en finir avec ce tabou français, publié aux éditions de l'Observatoire. Et Didier Lebray, ancien ambassadeur et consultant. À 18h30, notre grand débat, origine du Covid, doutez-vous de la thèse officielle? Et vous êtes 96,3% à dire oui. Ça va les vraies voix?
Toujours très bien.
Je ne sais pas, mais là, ça m'a mis l'eau à la bouche. Une omelette aux girolles, ça vous dirait, Philippe Bilger?
C'est formidable, mais si vous pouviez nous en préparer une, même de loin, ce serait génial.
Lydia Guirous, Didier Lebray, une omelette aux girolles, ça vous dirait?
Avec des poules élevées en plein air. J'amènerai ma poule d'ailleurs, là, pour la prochaine.
On a bien compris, parler d'un animal à plumes, bien évidemment.
Et Didier, comment n'êtes-vous pas pour le parti du plaisir? Je ne comprends pas.
Parce qu'il faut, le laisser à d'autres. On ne peut pas avoir le monopole du plaisir.
Ah bon? Du coup, tu n'avais pas le monopole du cœur. Là, ce n'est pas le monopole, pardon.
Cindy Lee n'a pas le monopole du plaisir, signé Didier Lebray. Ça sera la phrase de l'émission.
Ça va, les vraies voix? Allez, un petit tour de table de l'actualité de Lydia Guirous. Je parie que ça vous dirait.
Bien sûr.
Eh bien, c'est parti.
Les vraies voix Sud Radio.
Et vous voulez, ma chère Lydia, nous parler de la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire de Macron à Mélenchon?
Oui, rappelez-vous Jean-Luc Mélenchon qui a tweeté « La police tue ». Et aujourd'hui, vous avez Emmanuel Macron donc, qui était en déplacement dans le Tarn, qui a indiqué qu'il n'acceptait pas qu'on insulte les forces de l'ordre et qui a ajouté qu'au désordre mondial, il ne fallait pas ajouter un désordre français avec une majorité NUPES. Et donc Emmanuel Macron est rentré enfin en campagne. On a l'impression qu'il entre aussi en campagne parce que les troupes ne sont pas très solides, malheureusement, derrière lui. Et il alerte sur ce qu'est réellement cette NUPES majoritairement dominée par la France insoumise. Rappelons que la semaine dernière, vous avez une candidate, la France insoumise NUPES, Danielle Simonet, qui est candidate à Paris, accompagnée de Daniel Obono, qui est aussi député de Paris, qui ont accueilli Jérémy Corbyn, qui est donc un député, un ancien député travailliste donc britannique, qui était viré du parti travailliste, antisémite notoire, et il a été accueilli à bras ouverts, salué, avec plein de photos, plein de tweets partagés pour dire le bonheur qu'elles ont eu d'être aux côtés de ce Jérémy Corbyn. Et donc on voit ce qu'est la France insoumise, la NUPES, avec des relations qui sont douteuses. On les connaissait déjà sur l'islamisme. Emmanuel Macron donc a souligné ces liens, notamment ce danger lié au communautarisme, le désordre économique aussi que ça peut susciter en France, et puis ce programme qui ne tient pas véritablement la route.
Philippe Bilger, marquage à la culotte entre Macron et Mélenchon, entre Renaissance et la NUPES?
Alors, certes, par rapport aux propos délirants de Mélenchon, par exemple, sur la police, Emmanuel Macron fait preuve de bon sens. Mais je trouverais dramatique, mais évidemment, je n'engage que moi, que l'alternative demain sur le plan de la sécurité et de la justice ne soit qu'entre la NUPES, qui est catastrophique, bien sûr, et d'autre part le macronisme, dont j'estime que la grande faiblesse a été le régalien. Et ça n'est pas là que j'irai chercher ce qui me rassurerait.
Didier Lebray.
Je ne suis pas certain que cette séquence apporte davantage de voix à Mélenchon, parce qu'il y a, si une partie de son électorat est acquise à la cause, je pense notamment aux jeunes qui ont besoin de radicalité, et c'est vrai qu'ils captent très fortement cette radicalité, je pense qu'il y a une partie de l'électorat de gauche qui ne peut pas se retrouver dans une formation politique qui tourne le dos à ceux qui font de leur mieux pour nous protéger, assurer notre sécurité dans des conditions difficiles. et qui souhaite que le discours de la gauche soit un discours aussi de responsabilité.
Un mot de la fin, Lydia Guirous ou Philippe Bilger, non, marquage à la culotte entre les deux, c'est
oui,
le duel des législatives.
Oui, on a eu extrême droite et En Marche pour les présidentielles. On a un nouveau front républicain, je pense, qui va se mettre en place au lendemain du premier tour pour faire barrage à l'extrême gauche.
Les vraies voix, est-ce que vous intéressez, vous aimez la mer, vous aimez les océans?
Ah oui, énormément.
Parce que vous savez que hier, c'était la journée mondiale de l'océan. Et il y a en ce moment, bon, à Séville, alors une ville magnifique pour ceux qui connaissent l'Andalousie, oui, il y a la conférence des régions périphériques maritimes où on étudie l'état de la mer et des océans. Et on va prendre la direction de Séville où on va retrouver une des vraies voix, Christophe Madrol, qui y est pour la région sud, comme il s'occupe de la commission biodiversité, mer et littoral. Et il y a des choses absolument terribles sur les océans qu'on a le devoir de protéger. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Et je reste des heures à regarder la mer.
La magnifique voix du regretté Alain Barrière sur la mer, oui, à regarder la mer. C'était hier la journée mondiale des océans. Une situation des océans et des mers qui nous concerne tous. Nous sommes en compagnie de Christophe Madrol, une des vraies voix, conseiller régional sud et président de la commission biodiversité, mer, littoral, parcs régionaux, qui est en ce moment même à Séville, à l'Assemblée générale de la conférence des régions périphériques maritimes. Buenas tardes, Christophe Madrol.
Buenas tardes, Philippe. Buenas tardes a todos.
Alors justement, quelle est la situation des mers et des océans aujourd'hui? Moi, j'ai lu que le premier péril, c'était le plastique. Il y a un océan de plastique de 1,6 million de kilomètres carrés, trois fois la France, 1800 milliards de déchets.
Oui, en effet, il y a plusieurs risques au niveau de l'océan. L'un des premiers risques, c'est la pollution plastique sur nos plages. On le voit aujourd'hui. Il faut imaginer que pour 10 tonnes de poissons pêchés, aujourd'hui, il y a 1,5 tonne de déchets plastiques qui circulent dans nos océans. Donc la priorité, et là je suis effectivement à Séville avec le Parlement européen, avec les membres de la Commission européenne et l'ensemble des régions du pourtour méditerranéen, en tant que Marseillais c'est un peu normal, pour traiter la question déjà du plastique en Méditerranée. Mais dans tous les océans aujourd'hui, David, il y a des pollutions plastiques. Donc quand on parle de pollution plastique, ce n'est pas simplement les sacs plastiques, c'est aussi des microparticules. Et les microparticules, on les retrouve malheureusement dans les poissons que l'on consomme. Et comme je le disais ce matin à la commission, en discutant avec des pêcheurs espagnols, il y a de plus en plus de microparticules de plastique dans les poissons vendus dans les criers à travers le monde et en France en l'occurrence. Donc nous mangeons aujourd'hui du poisson et nous ingurgitons des microplastiques qui viennent de la pollution de nos océans. Donc il y a plusieurs orientations qui sont prises. Bien sûr, la Commission européenne essaye de combattre ce problème-là, mais je voudrais lancer un appel aussi à nos auditeurs, à nos concitoyens. Même si les politiques aujourd'hui se mobilisent, la pression de nos concitoyens est utile pour faire bouger les collectivités, faire bouger leurs élus. Ça ne peut pas être un petit problème. Parce qu'il y a le problème de la pollution plastique, il y a le problème du transport maritime, puisque vous avez vu que l'économie bleue, le transport par bateau, se développe et est multiplié par 2 aujourd'hui, et on imagine en 2050 multiplié par 5. Il y a la question de la montée des eaux, donc la protection de notre trait de côte. Il y a la question de la protection des écosystèmes marins. Ce matin, un conférencier nous disait qu'en Méditerranée, Philippe, il y avait une augmentation des poissons venus de la mer Rouge à cause du réchauffement climatique. Il y avait 30 espèces de poissons invasives en Méditerranée, des poissons qui sont en train de détruire tout l'écosystème méditerranéen actuel.
On va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger.
Bonjour, mon cher Christophe. Je n'y connais pas grand-chose. Concrètement, ça veut dire qu'on n'hésite pas à jeter du plastique dans la mer, dans l'océan. Comment ça se passe concrètement?
Le plastique vient de tous les déchets. C'est la pollution tellurique. Quand vous savez, quand on jette un plastique en haut de, du Mont Blanc, elle finit obligatoirement dans la mer. Donc notre civilisation du plastique fait qu'il y a des pollutions qui viennent de la terre vers la mer. Ça, c'est le premier, la première chose. D'autre part, c'est tous les, tout ce plastique se désagrège dans, la, dans les mers. Et résultat, ça fait du microplastique les que poissons
ah
mangent.
Ah oui, dans les poissons.
Absolument. Lydia Guirous.
Oui, moi je me demandais tout à l'heure, lorsqu'on était hors antenne, s'il n'y a pas une innovation technologique ou alors où en est la recherche pour pouvoir, je ne sais pas, aspirer, récupérer ces morceaux de plastique qui sont tout petits, c'est des petites particules. Hein. J'ai bien compris que ce n'était pas les grandes bouteilles, mais vraiment lorsqu'ils ont été... enfin décomposé. Est-ce qu'il y a des machines, je sais pas, dans d'autres pays ailleurs, qui existent pour pouvoir aspirer ces ces petits morceaux de plastique et ainsi dépolluer notamment la Méditerranée?
Alors justement, ce matin, il y avait un des chercheurs de l'université de Madrid qui travaille sur cette question-là. Actuellement, non. Actuellement, je ne vais pas vous mentir. Je suis une vraie voix comme vous. Non, il n'y a pas aujourd'hui techniquement. Réellement de moyens pour récupérer ces microplastiques. Récupérer les sacs plastiques, récupérer les bouteilles de plastique, récupérer les containers, on sait faire. Mais le microplastique, on ne sait pas faire aujourd'hui.
Didier Lebray.
Non, la solution, à l'évidence, c'est la réduction à une échelle globale de notre consommation de plastique. Mais il n'y a pas de fatalité. Je veux dire, l'embouteillage en plastique démarre dans les années 70. Avant, on était sur un embouteillage en verre.
Avec des consignes.
Avec des consignes.
On se rappelle les litres étoiles, etc., qu'on ramenait à la consigne.
Absolument. Moi, quand j'étais petit à Nice, je ramassais des bouteilles, ça me faisait quelques centimes chaque jour. Et le pauvre Emmanuel Faber, à la tête de Danone, qui est un des plus gros embouteilleurs d'eau minérale en plastique, quand il a évoqué la possibilité du groupe sans plastique, il s'est retrouvé quelques mois plus tard. Alors peut-être que son bilan financier n'était pas non plus à la hauteur des espérances des actionnaires, mais enfin le résultat s'est pas fait attendre. Il a été viré Manu Militari. Donc on voit bien que c'est des enjeux qui sont éminemment industriels et que la solution, elle sera aussi par une saine pression exercée par les États en termes de régulation et avec la mouche du coche, comme toujours, des citoyens et de la société civile organisée pour convaincre d'accélérer cette transition. Mais ce n'est pas du tout irréalisable. Mais en revanche, c'est clairement une priorité. On a discuté en antenne avec Philippe et Lydia. Il y a 5 ou 6 pays, en gros, qui sont les principaux émetteurs de plastique, dont on sait qu'il faut les aider en priorité à pouvoir trouver des solutions alternatives ou en tout cas contrôler leurs émissions, en tout cas une fois qu'elles arrivent dans l'océan.
Christophe Madrol.
Oui, mais en effet, vous avez complètement raison. Il y a quelques pays aujourd'hui qui ne sont pas engagés dans la charte zéro plastique. Nous, la France l'a fait sous Ségolène Royal, ça a été repris sous François de Rugy, Nicolas Hulot et tous nos ministres. Mais la France, c'est vrai qu'elle a 1000 km de côte en Méditerranée et c'est le deuxième pays maritime avec 10 millions de kilomètres carrés d'espace maritime après les États-Unis. Mais il faut aider les pays qui aujourd'hui ne sont pas engagés dans le zéro plastique à s'y engager. C'est une question de santé publique. Vous imaginez que aujourd'hui, la pêcherie française, la pêcherie internationale, c'est des milliers d'emplois. Si on pêche des poissons pollués non comestibles, on risque d'avoir des graves conflits humains. Parce que derrière la question de la pêche, il y a la question de l'emploi. Ce matin, j'abordais la question du tourisme durable avec la disparition entière de côtes sableuses à cause de la disparition de la posidonie en Méditerranée. La posidonie, c'est cette plante, non pas cette algue, cette plante qui perd ses fleurs et ses feuilles et qui vient échouer sur nos plages, permet de protéger nos plages. Et les touristes préfèrent des plages caraïbes, blanches, immaculées, etc. Mais pourtant, cette posidonie protège nos plages, empêche le désablement et permet effectivement d'avoir des plages de caractère, des plages de qualité. Vous voyez, donc, sans pression citoyenne sur nos élus, je pense que nous n'allons pas très loin. C'est pour ça qu'il faut réellement, et je suis content, Philippe, une fois encore, de plaider pour les mers et les océans. Sans mobilisation sur nos élus, on risque d'arriver à une catastrophe écologique mais aussi une catastrophe sociale et, avec les plastiques, une catastrophe sanitaire.
Vous avez parlé, il nous reste à peine deux minutes, des problèmes des espèces invasives qui arrivent avec le réchauffement climatique. La barrière de corail, elle est aussi à l'agonie à cause du réchauffement climatique, Christophe Madrol ?
Ah oui, mais comme vous le savez, j'ai eu la chance d'aller étudier la barrière de corail aux Maldives. Aujourd'hui, pour nos auditeurs qui ont eu la chance d'aller aux Maldives, une grande partie de la barrière de corail des Maldives est morte. Et donc, à partir de là, les poissons disparaissent. Ce n'est plus un endroit de nidation des poissons. Et les Maldives, dans quelques années, vont disparaître aussi à cause de la montée des eaux. Et protéger la barrière de corail, c'est protéger aussi toute la biodiversité marine. Donc là aussi, le réchauffement climatique perturbe les systèmes, perturbe la biodiversité et détruit les barrières de corail. Et c'est un vrai risque parce que nous avons 30 poissons invasifs aujourd'hui en Méditerranée, donc ce fameux poisson souris qui vient de mer Rouge et qui va dévorer tous nos herbiers de Posidonie.
Ah oui.
Et nos herbiers de Posidonie, comme la forêt amazonienne, est un puits pour récupérer le carbone immense. Donc si nous réagissons pas maintenant par rapport au réchauffement climatique,
ça va être problématique.
On risque d'avoir la Méditerranée, risque de devenir une mare sans vie à l'intérieur. Donc il y a vraiment urgence climatique et urgence écologique.
Dernière question, vous m'avez fait une confidence, mon cher Christophe, que vous êtes à la conférence des régions périphériques maritimes à Séville en ce moment même, on vous parle, vous êtes à Séville. Vous m'avez dit que l'invité d'honneur, c'était David Hasselhoff, on l'a vu dans Alerte à Malibu, il vous a passé une info, Pamela Anderson a exigé que pour la nouvelle série, ce soit Philippe Bilger qui le remplace, vous pouvez confirmer?
Je confirme, effectivement.
Mais Christophe, je ne serai pas libre. Oui, mais je ne serai pas libre, malheureusement.
Je préfère Cindy
Lee. Important.
Moi, je voulais vous faire à tous un gros bisou. Alors, vivement qu'on se retrouve tous en plateau autour de notre ami Philippe David. D'accord. Là, je suis à Séville. La semaine prochaine, je serai encore en déplacement pour mon ami le président Muselier, qui est en convalescence, comme vous le savez. Donc, je le remplace à pied levé. Mais en tout cas, je voulais vous faire tous un gros bisou. Et vive nous, et vive l'amour, et vive la vie.
Et on vous embrasse, et quand vous viendrez la prochaine fois, on aura le plaisir de voir les tablettes de chocolat de Philippe Bilger qui sont bien plus impressionnantes que celles de David Hasselhoff, n'est-ce pas Philippe Bilger? Dans quelques instants...
Mais c'est pas possible.
Dans quelques instants, notre grand débat. Mais pourquoi vous riez? Moi je les ai vus, c'est vrai.
C'est
pourquoi
bien.
C'est pas crédible?
Ah si, c'est alors tout à fait crédible, mais je ne connaissais pas.
Alors qu'on a un athlète avec Didier Lebray qui n'a pas un poil de graisse.
Je vais vous laisser entre hommes. Bonne soirée,
quelques
messieurs.
Quelques instants, notre grand débat. Origine du Covid, doutez-vous de la thèse officielle? Vous êtes 96,4% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix de Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Didier Lebray. On écoute Patrick Cohen hier au soir dans C'est à vous.
Questions et révélations sur l'origine du Covid. Le virus est-il né dans la nature ou dans un laboratoire? Et dans ce dernier cas, le laboratoire pourrait-il être américain?
Voilà, question ultra sensible. On parle d'une maladie à 6 millions de morts. Question qui vient d'être relancée par un universitaire de renom, l'économiste américain Jeffrey Sachs, qui n'a rien d'un complotiste. Il est proche de la gauche, il a conseillé Bernie Sanders. Il vient de publier dans la prestigieuse revue de l'Académie des sciences un appel à une enquête indépendante et transparente aux États-Unis.
Oui, c'était Patrick Cohen hier soir dans C'est à vous. On ne parle plus de pangolins ni de chauves-souris, mais bien d'une possible fuite de laboratoire du Covid-19, un laboratoire qui ne serait peut-être pas chinois, mais américain. Une thèse si peu farfelue qu'elle est même évoquée par la prestigieuse revue médicale The Lancet. Pourtant, cette thèse, hier, était considérée comme fumeuse, même si les enquêteurs envoyés à Wuhan au labo P4 n'ont rien pu constater du tout, empêchés qu'ils l'ont été par les autorités chinoises. Encore plus surprenant, dans une enquête sur Peter Daszak, un spécialiste des zoonoses, la revue Vanity Fair a dévoilé que le zoologue avait profité de larges subventions de la part des instituts américains de la santé afin de construire des coronavirus chimériques qui combinent des fragments de différents virus qu'on trouve dans la nature. Lors de ses travaux, l'ONG du spécialiste a activement collaboré avec l'Institut de virologie de Wuhan. Des recherches tenues sous silence avant les révélations de la revue américaine. D'où notre grand débat, origine du Covid, Covid, doutez-vous de la thèse officielle? Et vous êtes 96,5% à dire oui avec nous, Philippe Poindron, virologue et professeur honoraire à l'Université de Strasbourg. Philippe Poindron, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, j'ai lu, mais moi je ne suis pas médecin, pas virologue, j'ai lu que le virus du Covid-19 est à 96% commun avec un virus trouvé sur des chauves-souris présentes dans une mine en Chine. L'accès de la mine a été interdit aux enquêteurs internationaux avec dessus de la furine. Je connaissais même pas le nom, mais en préparant l'émission, j'ai appris ce qu'était la furine, qui a priori permet une transmission plus facile à l'homme. Est-ce bien ça?
Oui. C'est tout à fait ça. En ce qui concerne l'origine du virus responsable de la Covid-19, il y a deux théories ou deux parties qui s'affrontent d'ailleurs très âprement dans les revues scientifiques. Certains disent c'est une construction artificielle et d'autres disent pas du tout, ce n'est pas une construction artificielle. Alors, en faveur de la construction artificielle, il y a, comme vous l'avez dit, le fait que ce virus responsable de la Covid-19 contient dans son génome, ses gènes, une séquence qui s'appelle la séquence furine et qui fait que ce virus est plus infectieux parce qu'en fait, il peut devenir infectieux dès qu'il a contacté la surface de la cellule. Alors, si l'on regarde ce qui se passe avec deux autres virus responsables de syndrome respiratoire aigu, le SARS-CoV, qui a donné une épidémie il y a quelques années en Chine, et puis le MERV, le Middle East Respiratory Syndrome Virus, qui a donné une épidémie en Arabie Saoudite, si l'on regarde les génomes de ces virus, ils n'ont pas la séquence furine. Donc la séquence furine est très clairement spécifique de la souche responsable de la Covid-19. Alors ça pose évidemment un problème, puisque cette séquence est quand même quelques acides aminés, et on ne voit pas très bien comment par mutation elle aurait pu être acquise. Et puis il y a des gens qui disent, mais pas du tout, c'est un virus qui a été recombiné, parce que ces virus se recombinent très facilement, qui se recombinait il y a des années, et par conséquent, ce n'est pas une construction artificielle. Alors moi, ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est que l'épidémie a commencé à Wuhan. Hein. Rappelez-vous, hein, on a confiné Wuhan pendant 2 mois. Et Wuhan, c'est là où il y a ce fameux laboratoire P4, dans lequel effectivement des études sont menées sur les virus et sur les gains de fonction. Donc voilà, ça c'est un fait. Est-ce que le virus s'est échappé involontairement? Est-ce que, à supposer qu'il ait été fait là, est-ce que c'est une fuite volontaire? Ça c'est difficile à dire. Mais en tout cas, c'est certain, c'est l'existence de cette séquence furine pose vraiment des questions.
Philippe Bilger.
Alors, mon cher Philippe, je ne sais pas si je dois vous remercier pour une fois de me donner la parole en premier, parce que j'avoue que, malgré les explications limpides du professeur Poindron, j'avoue que quel est véritablement l'enjeu, monsieur le professeur, à la fois sanitaire et politique de ce débat. J'avoue que je suis perdu. Sans taxer quiconque de complotisme, et Philippe parlait de la revue prestigieuse qui était The Lancet, j'ai cru comprendre que parfois cette revue elle-même était discutée en tout cas à une certaine époque. Alors que faut-il penser de tout ça? Et pardon de vous renvoyer des questions.
Alors Philippe, en ce qui concerne la revue Le Lancet, effectivement, il y a eu quelques problèmes. Il y a eu notamment le fameux Lancet Gate qui a finalement dézingué l'hydroxychloroquine. On pourrait revenir dessus éventuellement. Et ça, c'est un petit peu… Alors, la question de l'origine du virus est une question éminemment politique, c'est évident. Ce que je constate, c'est qu'il y a une certaine corrélation entre ceux qui disent que ça n'est pas un virus qui a une origine artificielle, c'est un virus naturel, et qui défendent à tout prix la vaccination. Et puis ceux qui pensent que c'est un virus qui a une origine artificielle sont plutôt contre la vaccination. Ça me paraît déjà donner une petite connotation politique au problème. Mais je crois qu'il faut sortir de cette question politique, il faut regarder les faits. Les faits, c'est, il y en a deux qui sont absolument indiscutables, même trois. Il y a le fait que l'épidémie a commencé à Wuhan. Le deuxième fait, c'est que ce virus a une séquence que l'on ne retrouve pas chez des virus qui lui sont apparentés. Et ça, c'est une chose qui est tout à fait intéressante et importante. Et puis, la troisième chose, c'est que ce virus, finalement, mute et semble échapper échapper à la vaccination. Ça, ce sont des faits qui sont tout à fait intéressants.
Didier Lebray.
Non, je crois que c'est un cas d'école où on voit que la politique s'empare d'un sujet qui devrait être a priori traité par les hommes de l'art, c'est-à-dire les scientifiques, déterminer l'étiologie, la cause réelle de cette pandémie. Mais si la politique s'en empare, c'est qu'il y a de bonnes raisons. La première, c'est que l'OMS a été, dans un premier temps, très en arrière de la main, a été très critiquée, a donné dans un deuxième temps le sentiment d'être complètement inféodé aux Chinois, donc ça nourrit le soupçon. Troisièmement, la Chine, vous l'avez rappelé, professeur, abrite un laboratoire P4, mais aussi où sont d'ailleurs traités des virus comme Ebola, mais également deux laboratoires P3 où sont traités des virus de type coronavirus. Et donc, le fait que l'OMS n'ait pas eu accès aux données et très peu aux laboratoires, ça pose un problème réputationnel pour la Chine. Vous vous souvenez, professeur, que le transfert de ce laboratoire P4 s'est fait avec le soutien de la France, et notamment de l'Institut Pasteur, et qu'il y a des voix qui se sont élevées à l'époque pour dire on ne sera pas en mesure de contrôler ce qui va s'y passer. Et donc pour les Chinois, reconnaître la possibilité d'une erreur de manipulation, ça reviendrait à dire qu'ils n'ont pas le niveau aujourd'hui technique ou scientifique pour avoir des laboratoires de ce type. Donc pour le prestige national de la Chine, au moment où elle accède au statut de puissance mondiale, ça serait un camouflet. Mais c'est pas la première fois. Moi, quand j'étais ambassadeur en Haïti, il y a eu une épidémie de choléra. Je sais pas si vous vous souvenez, professeur. Et on a mis 10 ans pour établir qu'il ne s'agissait pas du tout d'une génération spontanée de choléra, comme voulaient nous faire croire les médecins et les épidémiologistes américains à l'époque. C'était le professeur Piarou que j'avais fait venir à l'époque en Haïti, qui avait établi tout simplement le bon diagnostic, qui était que malheureusement il y avait eu des excrétats de la force d'interposition des Nations Unies d'un bataillon népalais qui a contaminé tout un fleuve qui était un fleuve vital en Haïti. Mais il a fallu 10 ans pour établir les faits. Comme quoi la science se politise, là en l'occurrence elle s'était politisée parce que les Nations Unies ne pouvaient pas reconnaître dans un premier temps leur responsabilité et en restant dans le pays. Donc le sujet là ne m'étonne pas, la Chine à mon avis aura beaucoup de mal si c'est une sa responsabilité qui est engagée à reconnaître ses torts.
Philippe Poindron.
Alors je vous rassure, la science chinoise est d'une très haute qualité. Quand on regarde, quand on fait la bibliographie, ce que j'essaye de faire régulièrement, le nombre de publications produites par les Chinois est extrêmement élevé et le plus souvent de très très haute qualité. Donc à mon avis, ce n'est pas la qualité de la science chinoise qui doit être mise en cause, c'est plutôt des recherches qui se sont faites d'ailleurs probablement avec des laboratoires américains, des recherches sur ce qu'on appelle le gain de fonction. Autrement dit, si le virus est artificiel, ce qu'on a cherché à faire, c'est à introduire dans ces gènes des gènes qui favorisent son pouvoir infectieux et sa dissémination. Moi, je croirais plutôt, si le virus est artificiel, je croirais plutôt à des recherches sur le gain de fonction plutôt qu'à une erreur de manipulation ou une incompétence des Chinois. Ils ne sont pas du tout incompétents, ça je peux vous dire.
Les vraies voix, 18h42, notre grand débat, origine du Covid, doutez-vous de la thèse officielle? Vous êtes 96,5% à dire oui. On continue le débat dans quelques instants en compagnie de Philippe Poindron, virologue et professeur honoraire à l'Université de Strasbourg.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirouz, Didier Lebray. Notre grand débat, origine du Covid, doutez-vous de la thèse officielle? Vous êtes 96,4% à dire oui. Avec nous, le professeur Philippe Poindron, virologue et professeur honoraire à l'Université de Strasbourg. Professeur Poindron, est-ce qu'il n'y a pas quand même un côté politique, puisqu'on sait maintenant que les Américains, d'après la thèse qui était évoquée par Patrick Cohen ou par The Lancet par exemple, ou Vanity Fair, étaient main dans la main avec les Chinois? Je me rappelle de l'administration Trump qui tirait à boulet rouge sur les Chinois, disant grosso modo c'est les Chinois qui ont laissé partir le virus, donc c'est eux qui devront payer. Si les Américains sont mouillés dedans, peut-être que les Chinois vont leur dire dans ces cas-là on va partager les frais. Il n'y a pas un aspect politique?
Si, le problème est tout à fait politique. Moi, je suis absolument persuadé qu'il y a eu une collaboration, c'est d'ailleurs assez curieux, entre des chercheurs américains et des chercheurs chinois. Ça paraît évident. Et peut-être aussi, d'ailleurs, des chercheurs français, puisque, si ma mémoire est exacte, je crois que M. Cazeneuve était présent à l'inauguration du laboratoire de Wuhan.
Oui, de mémoire, il y était.
Il y était. Hein. Donc, si vous voulez, évidemment, c'est très intéressant d'avoir un laboratoire ultra sécurisé, P4, qui n'est pas signé en Europe ni aux États-Unis. Comme ça, s'il y a une catastrophe, ça ne touche pas le continent européen ou le continent américain. Donc, je suppose que… Mais le problème est éminemment politique. Ça me paraît évident. Il est lié, de mon point de vue à moi, à des problèmes également de santé publique, type vaccination, négation de l'utilisation de certaines molécules. Et tout ça est étroitement lié. Ça me paraît évident. Personnellement, je vais vous donner mon avis. Hein, j'aurais tendance à croire qu'effectivement, il est hautement improbable que le virus soit entièrement naturel. Vraiment. Alors, il faut quand même que vous sachiez qu'il y a une partie du virus. C'est toute la partie qui est à l'extrémité. Vous savez, il y a des pointes à la surface du virus et à l'extrémité, bien qu'il y a une partie de cette pointe qui permet au virus de se fixer. Et bien, quand on regarde les séquences des gènes, on voit que cette partie-là est exactement identique ou très voisine d'une partie qui est retrouvée sur un virus du pangolin, un coronavirus du pangolin. Et tout le reste, sauf la séquence urine, est emprunté à un virus de la chauve-souris. Donc, de là à dire que c'est un hybride pangolin-chauve-souris plus furine, il y a un pas à franchir qui, moi, me paraît scientifiquement possible. Bon, ceci a été contesté, il faut le dire très honnêtement, ça a été contesté par des gens qui disent non, c'est… Mais il y a quand même ce fait qu'il faut prendre en considération.
Didier Lebray ?
J'entends ce que vous dites, professeur. Est-ce qu'on ne peut pas considérer aussi, avec le recul maintenant, que à l'avenir, ce à quoi on aura à faire face, c'est de plus en plus, parce que on l'a dit mille fois, les mégalopoles sont à la lisière des forêts, parce que les modes de consommation de viande de brousse ont augmenté, parce qu'une classe moyenne chinoise qui veut faire comme faisait l'élite autrefois, on sait même qu'il y a de la viande de brousse africaine qui va jusqu'en Chine. Est-ce que au fond, même si c'est pas complètement avéré que c'est une transmission naturelle, bon, dont acte, mais est-ce que de toute façon le problème ne va pas se reposer de manière récurrente, parce que on est dans un contexte où on joue un peu avec le feu?
Ah ben, je suis entièrement d'accord avec vous. Par exemple, évidemment, c'est un petit peu à côté du coronavirus, mais la variole du singe, elle est très probablement hébergée par des rongeurs. Et il est évident que les rongeurs, ça va un petit peu partout. On sait que la variole du singe est apparue aux États-Unis, importée par un singe, semble-t-il, mais peut-être aussi par des rongeurs. Donc, le fait qu'il y ait cette mondialisation des échanges, notamment de nourriture, c'est un facteur de diffusion de ces viroses. Ça, il n'y a aucun doute.
Mais alors, je voudrais vous poser une dernière question. Il nous reste 1 minute 45.
Oui.
Un virus, ça mute éternellement ou ça peut arrêter de muter un jour ou l'autre? Et vous avez parlé des séquences. Qu'est-ce que c'est exactement une séquence? C'est une partie d'un virus?
Alors, une séquence, c'est une partie d'un virus, c'est une série de… la séquence urine, elle fait quelques acides, ce qu'on appelle des acides aminés, donc une petite partie de la protéine, et évidemment, elles peuvent être introduites, et je ne crois pas qu'elles puissent être acquises par simple mutation. Hein. Ça me paraît vraiment très, 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 très difficile à admettre. Et puis, ce qui est très curieux, c'est que les deux autres coronavirus responsables de syndrome respiratoire n'ont pas cette séquence. Ça, c'est quand même très curieux. Alors, un virus, ça mute, mais les possibilités de mutation ne sont pas universelles. Il y a un moment donné, notamment si l'immunité est collective, il a épuisé ses possibilités de mutation, et à ce moment-là, il disparaît. C'est le cas, par exemple, des virus de la grippe. Hein. Il y a un moment donné où les possibilités de mutation, comme tout le monde pratiquement a été atteint par la grippe, à un moment donné, les possibilités de mutation sont épuisées, et puis on passe à un autre virus.
Merci beaucoup, professeur Philippe Poindron, virologue et professeur honoraire à l'Université de Strasbourg. Verdict sur Twitter, origine du Covid, doutez-vous de la thèse officielle? Vous êtes 96,1% à dire oui.
Les vraies voix Sud Radio.
Et bonsoir Philippe Rossi.
Rebonsoir à vous.
Une start-up française révolutionne la cantine d'entreprise.
Eh oui, elle révolutionne surtout son modèle économique. Hein. Cette start-up, c'est Pop Chef qui innove avec des frigos connectés.
Ça rappelle une émission
de télé. Oui, c'est vrai. Bonsoir François de Fitte.
Bonsoir à
vous. Vous êtes PDG de Pop Chef. Alors, ce que vous proposez, c'est une cantine digitalisée, hein, en somme. Expliquez-nous, tiens, pour commencer, quel est le principe de ces frigos connectés?
C'est très simple, en fait. On va installer un frigo connecté dans une entreprise, souvent une PME ou un site de moyenne taille. On va remplir ce frigo tous les matins avec les plats du jour de Pop Chef. Et puis le collaborateur vient devant le frigo, déverrouille le frigo avec son smartphone, se sert. Et comme le frigo est intelligent, on arrive à savoir exactement ce qui a été pris grâce à un système de balancier. Et le consommateur va être débité de ce qu'il a pris, en fonction de ce qu'il a pris, avec une éventuelle subvention employeur comme une cantine.
Il y a plus, donc du coup, dans cette cantine d'entreprise, hein, nous on en a une à Sud Radio, il n'y a plus de salariés en fait, finalement.
Et exactement, il n'y a plus de salariés, ce qui rend le concept beaucoup plus accessible et ce qui permet à des entreprises, à partir de 30 couverts par jour seulement, d'installer un restaurant d'entreprise, ce qui auparavant était quand même réservé aux beaucoup plus grosses boîtes. Donc on arrive à démocratiser le concept grâce au frigo. Maintenant, on a aussi des solutions pour les plus gros sites, parce qu'on équipe également des sièges sociaux, parfois jusqu'à 300 ou 400 couverts jour. Donc on peut aller un peu plus loin. Dans ce cas, on va éventuellement installer un comptoir dans lequel on servira un bar à salade ou on aura un barista qui fera du café. Donc là, on aura un peu de service humain. Mais la ligne rouge qu'on ne va jamais franchir, c'est qu'on ne va jamais cuisiner sur place. Quand on a un bar à salade, c'est ni plus ni moins que de l'assemblage en fait, hein, d'une salade.
Donc on ne peut pas dire, par exemple, est-ce que vous pouvez cuire un petit peu plus mon steak, par exemple
pas... Exactement, on n'a pas de cuisine sur place. Voilà, et du coup, c'est ça qui fait qu'on est 3 à 5 fois moins cher qu'une cantine traditionnelle.
Et oui, c'est ça qui est important.
Donc c'est steak bien cuit pour tout le monde.
Voilà, c'est ça. Ouais. Alors c'est vrai que depuis le Covid, la restauration d'entreprise, hein, les cantines d'entreprise ont perdu beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de plus en plus de télétravail. Et d'ailleurs, ça perdure, ça continue. 40% de chiffre d'affaires en moins. Avec votre modèle, hein, François de Fitte, c'est plus 700%.
Eh bien, nous, on a eu plus de 700%. C'est vrai qu'on est un des rares acteurs du secteur à grossir. Mais là, on ne grossit pas. On grossit très, 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 très vite.
Vous explosez.
C'est, ouais. Voilà. C'était pas attendu. On a eu une année 2020 qui était un peu mi-figue mi-raisin parce que les confinements n'étaient pas forcément très bons pour nous. Il y avait moins de gens dans les bureaux et on ne vendait plus beaucoup de plats. En revanche, post-confinement, on a à chaque fois senti une énorme accélération parce que les gens remettaient en question finalement leur cantine d'entreprise et chercher des solutions plus digitales, plus légères, avec moins de coûts fixes, qui prenaient en compte les nouvelles habitudes du travail. Et les nouvelles habitudes, c'est plus de télétravail qu'avant. Et quand on vient au bureau, on veut une solution un petit peu plus légère.
Vous avez créé l'entreprise avant l'apparition de l'épidémie de Covid ?
On l'a créé juste avant.
Juste avant. Donc vous avez un peu de pif quand même. Hein. Un petit peu beaucoup.
C'était avant le Covid qui fait perdre l'odorat. Bah donc oui. C'est pour ça qu'ils ont eu du flair avant, c'est logique.
Deux ans après la création de Pop Chef, vous avez failli déposer le bilan en cause de l'arrivée de Deliveroo et Uber Eats. Pour finir, comment vous avez réussi à vous relever ?
On a une histoire assez compliquée. Nous, en fait, on a été la première food tech du marché français en 2015. À l'époque, on livrait un plat en 15 minutes. C'était ça la promesse.
Ah oui.
Et c'était un seul plat du jour. Mais c'était vraiment, disons, un peu l'ancêtre des Deliveroo et compagnie. Et l'ancêtre, il y a seulement 7 ans. Donc tout ça allait très vite. On n'a pas vu du tout venir l'énorme vague de marché qui a été très difficile, qui nous a submergés. Tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à lever autant d'argent que les concurrents américains et anglais. Et donc, face à cette mort certaine, on a fait un choix radical et très risqué. On a décidé de pivoter et de complètement arrêter l'activité de livraison de repas en allant d'un modèle de livraison en particulier vers un modèle entreprise parce qu'on a vu qu'il n'y avait aucune start-up sur ce modèle-là et qu'on aurait donc une concurrence un peu moins féroce.
Ouais. Et vous êtes basé où maintenant ?
Alors, on est basé à Paris, mais on déploie déjà partout en Ile-de-France. On a également ouvert la région Occitanie, la région PACA, on va lancer Bordeaux. Donc on est en train de se déployer un peu partout.
Ouais, et c'est une belle histoire hein, parce qu'il y a eu des hauts, des bas, et là du très très haut pour le coup. On vous souhaite encore du très très haut.
Je vais être un peu caricatural. En Occitanie, le plat du jour tous les jours, c'est cassoulet et c'est plus saladière du côté de la région PACA ou bouillabaisse, selon qu'on soit à Nice ou à Marseille.
Ça dépend des goûts de Caroline Delga.
C'est pas Caroline, c'est Carole.
Vous croyez pas ce que je veux dire. En fait, le modèle de Pop Chef, il est assez unique parce que la plupart des acteurs m'associent leurs achats. C'est comme ça qu'ils font des marges. Nous, on a fait le choix complètement inverse. On va à chaque fois s'adosser sur des petites cuisines locales, à vrai dire des petits traiteurs locaux. Nous, on ne cuisine pas. En fait, on va trouver des traiteurs locaux à chaque fois qui ont leur spécialité locale et qui sont capables de travailler des produits locaux. Et donc, vous allez effectivement avoir des plats bordelais à Bordeaux, des plats marseillais à Marseille et des plats parisiens à Paris.
Et voilà.
Bon. Excusez-moi, c'est quoi un plat parisien ? Je demande à savoir. Vous me demandez un plat alsacien ou breton, je vous le donne. Mais un plat parisien, allez-y.
C'est du quinoa et du boulgour.
C'est vrai. Très bonne définition.
On voit d'ailleurs les champs de quinoa en Ile-de-France, il y en a plein.
Merci à vous, François Defitte. C'est au PDG donc de Pop Chef. Et bravo.
Et tout de suite, notre auditeur du jour, comme nous sommes jeudi, ce sera Lionel qui veut parler des expulsions de squatteurs. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix de Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
À annoncer maintenant, comme on est jeudi, autant pour moi. Merci à Jamel de m'avoir rappelé cette réalité. Bonsoir Lionel.
Oui, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe.
Donc, Didier Lebray est resté avec nous, Philippe Rossi est avec nous, et c'était notre premier débat. Faut-il rendre les squatteurs exploitables immédiatement? Vous êtes 97,2% à dire oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel? Vous avez déjà été victime de squatteurs, ou vous avez eu des proches, voisins, amis, familles qui ont été victimes de squats?
Oui, oui, tout à fait. Des amis, des proches. Encore mon client d'hier avec qui j'en parlais, qui a mis 4 ans pour sortir la famille qu'il squattait.
4 ans
dans un de ses appartements à Marseille, parce qu'il y avait des pitchous à l'intérieur, et donc c'est beaucoup plus compliqué. Il a mis 4 ans. Il a mis 4 ans pour le sortir. Bref, moi, je vais vous dire un truc. J'ai une maison, techniquement. J'ai acheté un dépôt. Il y a une maison dessus. Donc, je pourrais la louer. Je perds 900 euros donc de location tous les mois depuis maintenant 2 ans, parce qu'en fait louer cette maison et me retrouver potentiellement avec des mauvais payeurs et des gens qui sont extrêmement difficilement expulsables, et ben oui, ça fait un petit peu flipper. Alors c'est sûr que on peut pas mettre les gens dehors comme ça, mais Si moi je regarde ce qui se passe un petit peu autour de nous dans d'autres pays, aux États-Unis vous avez 45 jours. C'est-à-dire que quand vous payez plus, vous avez 45 jours, et au bout de 45 jours, c'est les flics qui viennent vous déloger et ils vous sortent. Alors c'est sûr qu'il y en a certains, ils vont dire que c'est un peu brutal, c'est un petit peu dur. Sauf qu'en France, concrètement, maintenant, qu'est-ce qu'on demande aux locataires? On demande 3 fois la valeur du loyer, on demande des garants solvables et machin. Si vous n'êtes pas fonctionnaire, c'est extrêmement compliqué de trouver des locataires pour l'assurantiel, en loyer impayé. Donc en fait, on est nous dans une gradation, en fait, on est en train d'augmenter, en fait, de manière complètement démente, les demandes auprès des locataires, donc les gens n'arrivent plus à se loger, et c'est une galère sans nom. Et parallèlement aux États-Unis, en fait, vous pouvez arriver, vous payez votre loyer, alors c'est sûr que le propriétaire, il sait que s'il n'est pas payé, eh ben, au minimum, il les garde 45 jours. Et en fait, si vous voulez, il faut amorcer une décrue de façon à pouvoir virer les gens beaucoup plus facilement. Quant aux squatteurs, moi je regrette, mais je pense que vous êtes tous propriétaires autour de la table, mais quand vous êtes propriétaire, putain, le mec il rentre chez vous au bout de 48 heures par je sais plus quel, parce que moi je me suis pris la tête par exemple avec EDF, parce que moi je voulais faire bloquer le compteur, je voulais pas qu'on puisse changer. Je voulais pas qu'on puisse changer le compteur, en fait le nom du compteur. Et au final, EDF a refusé. Je lui dis donc, si j'ai des gens qui viennent squatter dans cette baraque, au final je pourrais pas les sortir. En gros, 48 heures, ils me changent le compteur, ils sont chez eux, hein, bien malheureusement, ils sont chez eux, et je peux mettre jusqu'à 2 ans pour les sortir. Et ils m'ont dit oui, mais bon, on n'a pas le droit de faire comme ça. Mais de quel droit, en fait? De quel droit les gens viennent chez vous, dans une maison, dans une résidence secondaire, ou peu importe la résidence, ils viennent chez vous, ils s'installent, ils changent les serrures, ils mettent un compteur, et ça y est, et ça part pour 2 ans. Mais ouais, on vit sur quelle planète? Moi, j'ai envie de vous dire.
Alors, on va faire réagir les vraies voix. Didier Lebray, c'est vrai qu'on entend les squatteurs, les mauvais payeurs, on a l'impression qu'en France, les lois sont vraiment faites pour les gens qui violent la loi. C'est quand même délirant.
Non, il peut y avoir effectivement un sentiment d'une espèce d'asymétrie entre un droit qui est très protecteur de ceux qui n'ont pas trouvé une autre façon de se loger qu'en squattant, soit après avoir eu un contrat régulier et puis en restant sans payer. Mais c'est en fait, on parle plus là du cas de figure de squatteur qui s'installe en profitant d'une maison vide. Et là, je conçois que ça révulse un peu la conscience de se dire que on est sans moyen.
Vous partez en vacances, vous revenez, voilà, votre maison est occupée, vous avez plus de 48 heures, vous êtes parti une semaine en vacances et vous pouvez rien faire, ça dure 2, 3, 4 ans.
Une fois encore, même si la procédure judiciaire est longue et coûteuse, moi je comprends qu'aujourd'hui, depuis en tout cas de 2020-2021, il y a des procédures dites d'urgence accélérées qui sont très peu mobilisées. Donc peut-être qu'aussi il faut les rendre plus accessibles et faire en sorte ensuite que les préfets prennent des bonnes mesures.
Non, je trouve ça aberrant. Déjà, ça met en évidence ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire ce millefeuille administratif, parce que je rappelle qu'il faut passer une fois par le préfet, une fois il faut attendre la réponse du procureur, et il faut fournir les différents papiers. Et aussi, parce que les propriétaires les ont les papiers, heureusement, en revanche, je ne comprends pas. Je comprends dans la morale qu'on ne peut pas mettre des gens dehors.
Bah, attendez, ça, si oui. Rentre chez
non, mais
vous.
Je suis d'accord. Mais d'un point de vue moral, je peux le comprendre. Mais là, non seulement.
D'un point de vue moral, on ne s'est entendu pas chez les gens non plus. Hein,
exactement, voilà, c'est ça. Donc, ils ont commis une infraction. Donc, oui, on les fout dehors. Je trouve ça complètement aberrant. Et ce qui est terrible, c'est qu'on en parle depuis des années de ce problème de squat. Je crois qu'il y a 2 ans, je crois que c'était Monsieur Darmanin d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, qui avait expliqué qu'ils allaient alléger les procédures, qu'ils allaient revoir la loi, qu'ils allaient peut-être même y remédier. Pour l'instant, toujours rien. Hein. On le voit avec les différents témoignages. Il ne se passe absolument rien. C'est incroyable, c'est incroyable.
Mais justement, Lionel, on va élargir un peu la discussion. En France, on parle de crise du logement. Aucun de nous n'est né, je ne pense pas vous non plus, Lionel, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait quand même pratiquement 80 ans. Est-ce que le fait que les lois soient surprotectrices pour les mauvais payeurs et pour les squatteurs ne dissuade pas les gens, alors qu'en plus la fiscalité sur l'immobilier est élevée? On l'a vu notamment avec la suppression de l'ISF qui a été remplacée par l'IFI, ce qui est quand même un peu délirant. Vous avez 20 milliards d'actions en bourse, vous payez, mais vous êtes locataire, vous ne payez pas l'IFI. Par contre, vous avez un appartement qui a pris de la valeur, qui vaut 1,3 million, vous payez l'IFI, même si vous n'avez pas grand-chose à côté. Est-ce que, quelque part, la crise du logement ne s'explique pas en partie parce qu'on fait tout pour dissuader les gens d'investir dans l'immobilier locatif?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord, mais c'est ce que j'ai dit en préambule en fait. Le truc, c'est que moi je ne perds pas 900 balles par plaisir par mois. Hein. Mmh. Moi, ma maison, je préférerais la louer, mais les lois sont faites de telle manière que j'ai pas envie de prendre le risque. Parce que en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie d'être hors la loi. Vous voyez, parce que moi, quelqu'un qui vient me squatter pendant 2 ans, très honnêtement, l'argent que je gagne, vous voyez là, ça fait 14 heures de travail aujourd'hui, ça c'est 6 jours sur 7, et c'est depuis des années comme ça. Ce que j'ai, je l'ai gagné. Et quand je dis je l'ai gagné, je l'ai vraiment gagné. C'est-à-dire, je suis dans le BTP en plus. Croyez bien que je l'ai gagné durement.
Oui, c'est
donc
clair.
Donc il est tout à fait hors de question que quelqu'un vienne un jour se servir dans ma poche. L'État le fait déjà bien assez comme ça. Donc,
30%, 30% hein, quand on loue un bien. Ouais, ça dépend du nombre de monde, notre carême. En général, c'est 30%.
Ça dépend. Quand vous louez, vous comptez la taxe foncière, les charges,
ah, oui,
etc. Je pourrais dire que les 30% les invite.
Attendez, moi, l'impôt, c'est une chose. L'impôt, c'est... Moi, personnellement, mes filles sont à l'école publique. Je vais me soigner à l'hôpital. Moi, l'impôt, pour moi, c'est pas un problème. J'ai payé plus de 100 000 euros cette année et c'est pas un problème. C'est pas grave. C'est comme ça. On vit dans un beau pays et ça me gêne pas. Honnêtement, ça me gêne pas. Mais par contre, que quelqu'un qui mais peu importe la raison, viennent chez moi, dans mes biens, me squattent et entre guillemets ne me payent pas, et c'est de l'argent qu'on ne récupérera jamais, mais c'est tout à fait hors de question. Moi, j'ai un pote à moi, vous savez comment il a résolu ça? Il n'en pouvait plus. En fait, il n'en pouvait plus financièrement, c'est-à-dire qu'il était à la gorge. Il a juste appelé un petit groupe, comment ça s'appelle, qui sont spécialisés là-dedans. Ça lui a coûté 2000 euros. Ils ont sorti tous les gens qu'il y avait à l'intérieur. Voilà. Mais comme il me dit, en fait, moi, je suis hyper réglo. Je fais super gaffe à ce que je fais. Je paye tout ce qu'il faut payer, machin. Et en fait, on me pousse à l'illégalité, parce que sinon, c'était moi qui allait droit dans le mur. Et comme il m'a dit, imagine ça se passe mal. Imagine qu'on a un qui sort une arme ou un truc comme ça.
C'est lui le responsable.
La responsabilité... Non mais attendez, c'est lui le responsable. Pour ça, il faut les attraper, c'est pas ça que je veux dire. Mais la responsabilité morale, par contre, qui vis-à-vis de ce qui aurait pu se passer, est juste démentielle. Donc en fait, il pousse les gens au bout du bout du bout du bout. Il les pousse en fait à devenir, à entrer dans l'illégalité, alors que à la base, la justice devrait être là pour dire, écoutez, vous n'êtes pas chez vous, vous vous cassez, et ils sont expulsés immédiatement. Mais de quel droit vous changez le nom d'un compteur qui n'est même pas à vous, vous rentrez chez quelqu'un, c'est même pas chez vous, vous changez les serrures, et c'est parti pour 2 ans. Mais enfin, quand vous y réfléchissez bien, moi, vous savez quoi, à un moment donné, il y a 2 ans, là, quand ça a fait un peu de bordel, je me suis dit, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est aller squatter les résidences secondaires de nos députés. Je peux vous assurer que les lois
changeraient.
Une fois qu'ils vont avoir passé 2 ans à bien galérer pour sortir les gens, je peux vous assurer que les lois, elles vont être modifiées, mais très très vite. Parce que quand vous avez passé 2 ans, que vous récupérez votre bien, qu'il est éclaté, et que concrètement, bah, vous n'avez aucun recours parce qu'ils sont tous insolvables, allez squatter chez les députés. À mon avis, ça sera beaucoup plus efficace.
Là, juste pour l'affaire qui concerne donc ces deux personnes, et où Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a expliqué donc qu'il allait solliciter le préfet pour accélérer la procédure, ça c'est parce que ça a été médiatisé.
Bien sûr.
Mais combien il y a d'affaires qui ne sont pas médiatisées et qui durent et qui durent?
Moi, j'avais connu un cas, je vous le raconte très rapidement. C'était une femme qui n'avait pas une grosse situation. Elle était vendeuse chez le pays où la vie est moins chère. Vous voyez ce que je veux dire? On va le dire, Conforama. Elle avait un petit appartement pour qu'elle payait avec un crédit pour améliorer sa retraite quand elle sera en retraite, dans une ville pas très chère, Argelès-Gazost, dans les Hautes-Pyrénées. Vous voyez? Et celui qui louait ne l'a jamais payé. Au bout de 3 mois, il a arrêté de payer. Je crois qu'elle a mis 2 ans à le faire expulser. Elle avait qu'elle a fait, je crois, 15 ou 20 000 euros de travaux pour remettre l'appartement en état. Devant moi, je vous jure, elle pleurait. Il y a 15 ans de ça, 15-20 ans de ça, elle pleurait devant moi en disant « Je n'investirai plus jamais », elle dit. « J'avais mis mes économies. Maintenant, avec ce que j'ai comme économie, j'ai pas été payé, je vais devoir refaire l'appartement pour pouvoir le vendre, mais je ne louerai plus jamais. » Et ça, quand même, je pense que ce serait bien, tiens, squatter les maisons des députés, des sénateurs, pour qu'ils comprennent un peu la vie de la plèbe. Je vais utiliser un mot un peu provoque, mais c'est le but, parlons vrai. Ça ferait peut-être pas de mal, parce que, qu'on le veuille ou non, quelques bons coups de pied haut derrière, parfois ça remet les idées en place. Merci beaucoup, mon cher Lionel. Merci beaucoup, Didier Lebray. Merci Philippe Rossi, ça se passe avec vous, c'est les vraies voix qui font rouler la France.
Exactement.
Vous allez squatter le studio. Là.
Exactement, avec mes invités Mobility TV dans quelques minutes. Vous savez que c'est la fin des voitures thermiques neuves en 2035. Fini, on ne pourra plus acheter de voitures essence ou diesel d'ici 12 ans. Un coup de tonnerre pour la filière, évidemment. Quels sont les enjeux, quelles vont être les conséquences de cette deadline donc en 2035? On en discute avec nos invités. Oui, Philippe.
Je peux vous prendre un pari, pour remplacer la fiscalité de l'essence et du gasoil, à mon avis, le prix de l'électricité, il va flamber.
Alors ça c'est sûr, et on va en discuter.
Je peux vous dire que le prix du kilowattheure, bingo.
Claude Cham, président d'honneur de la FIEF, Xavier Oren, délégué général de Mobilience, Marc Mortureau, directeur de la plateforme automobile, et Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'observatoire CTLM, dans quelques minutes, dans les vraies voix qui font bouger la France. Pour l'heure, voici Conseil de famille.